Pour convertir de la chaleur en énergie mécanique, dans la quasi-totalité des cycles utilisés, le fluide thermodynamique est successivement comprimé, puis chauffé et enfin détendu. Si le cycle est ouvert, le fluide est alors évacué dans l'environnement externe. S'il est fermé, il est refroidi, puis de nouveau comprimé. Les divers moteurs que l'on utilise diffèrent par le type de cycle thermodynamique qu'ils utilisent, la nature du fluide thermodynamique qui les traverse, les types de sources chaudes, les organes de compression et de détente employés. Différentes typologies peuvent être ainsi établies, mais les catégories se retrouvent partiellement. Généralement, on distingue deux grandes catégories de moteurs. La première catégorie correspond au moteur à fluide compressible, où le fluide reste à l'état de gaz ou de vapeur pendant tout le cycle. Pour ces moteurs, un compresseur est bien sûr nécessaire. Selon les cas, on utilise comme source chaude une chaudière ou une chambre de combustion pour un cycle ouvert, si le fluide technique contient de l'oxygène, généralement de l'air. La seconde catégorie correspond aux moteurs à fluide condensable dans lesquels le fluide change d'état. En sortie du condenseur, il s'agit d'un liquide qui est comprimé par une pompe, puis chauffé et transformé en vapeur dans une chaudière, vapeur qui est ensuite détendue dans une turbine ou un moteur à piston. Le travail de compression, proportionnel au volume massique du fluide, est dans ces moteurs beaucoup plus faible que dans les précédents. On distingue aussi communément les moteurs à combustion interne, fonctionnant en cycle ouvert, pour lesquels la source chaude est une chambre de combustion. Les moteurs à combustion externe, fonctionnant en cycle fermé, pour lesquels la source chaude est une chaudière. Venons-en maintenant au rendement de Carnot, très important en pratique. Sadi Carnot a démontré en 1824 que le rendement d'une machine thermique idéale, décrivant un cycle entre deux sources de chaleur, ne dépend que des températures TC et TF des sources chaudes et froides, avec lesquelles elle est en contact, et est donnée par cette formule où TC et TF sont exprimés en degrés Celsius. L'expression du rendement de Carnot montre que sa valeur est d'autant plus grande que d'une part TC est élevé et que d'autre part l'écart TC-TF est important. L'existence d'une grande diversité de solutions technologiques s'explique essentiellement par la multiplicité des sources de chaleur existantes, les sources froides utilisables en pratique étant relativement peu nombreuses, généralement l'air ambiant ou bien un fleuve. Rappelons que le premier principe de la thermodynamique indique que l'énergie du système se conserve, alors que le théorème de Carnot dit que seule la fraction état de la chaleur fournie par la source chaude est convertie en énergie mécanique. Ces deux propositions peuvent paraître contradictoires. Considérons une source chaude disposant d'une quantité de chaleur QC à la température TC. La conversion de cette chaleur dans une machine parfaite échangeant avec une source froide à la température TF produit d'une part un travail W égale à état QC, état étant égal au rendement de Carnot, et d'autre part une chaleur QF à basse température égale à 1 moins état fois QC. Le premier principe est bien respecté, puisque QC est égal à W plus QF, et le théorème de Carnot a permis de déterminer état qui représente la fraction de la chaleur à haute température qui est convertie en travail. Cette figure vous montre la manière dont le rendement de Carnot varie lorsque la température de la source chaude passe de 50 à 1300 degrés Celsius, la température de la source froide étant égale à 15 degrés Celsius. Les valeurs atteintes pour différents types de cycles de conversion de la chaleur en puissance mécanique ou électricité sont indiquées. 80% pour une turbine à gaz à haute température, 65% pour une centrale électrique à flamme, 50% pour une centrale électrique nucléaire du type REP, 20% pour une centrale solaire thermique à tube sous vide. En pratique toutefois, les rendements réels sont beaucoup plus faibles, comme nous le verrons dans ce cours. D'une manière générale, l'objectif poursuivi dans la mise au point des cycles moteurs et de produire le plus de puissance mécanique possible à partir de la source de chaleur disponible, et ceci en tenant compte des contraintes technologiques existantes. En pratique, le rendement effectif est bien inférieur à celui du cycle de Carnot, d'une part parce que les hypothèses qui permettent d'établir cette formule ne sont presque jamais réunies, et d'autre part du fait des imperfections des machines utilisées, qui ont pour effet de baisser leur performance, car elles génèrent ce que l'on appelle des irréversibilités. Les différences avec le cycle de Carnot proviennent entre autres des points suivants. Tout d'abord, il faut en pratique qu'il y ait une certaine différence de température entre la machine et les sources chaudes et froides. Ensuite, il est exceptionnel que les sources chaudes et froides puissent être considérées comme isothermes. Le plus souvent, il s'agit d'un fluide qui échange de la chaleur entre deux niveaux de température. Enfin, lorsque la compression et la détente sont adiabatiques, elles ne sont pas réversibles du fait des irréversibilités mécaniques. Les cycles moteurs réels s'écartent donc sensiblement du cycle de Carnot. Pour des raisons technologiques diverses, on ne sait pas fabriquer industriellement des composants capables à la fois de transférer de la chaleur et de réaliser une compression ou une détente performante. C'est pour cela que les compresseurs et les machines de détente sont des machines dans lesquelles les échanges de chaleur avec leur environnement est négligeable, que l'on appelle adiabatique. Par ailleurs, le travail mis en jeu dans une compression ou une détente adiabatique réversible est, pour un gaz parfait, proportionnel à la température absolue TA du fluide à l'aspiration de la machine. Si les indices A et R désignent respectivement l'aspiration et le refoulement de la machine, le travail mis en jeu est donné par cette relation, F étant une fonction croissante du rapport de compression, TA étant exprimé en Kelvin et non pas en degrés Celsius. Cette relation montre que le travail de compression est d'autant plus faible que le fluide est froid. On a donc toujours intérêt à refroidir un gaz avant de le comprimer et, si le rapport de compression est élevé et si c'est possible sur le plan technologique, on peut être conduit à fractionner la compression et à refroidir le gaz entre deux corps de compression grâce à un échangeur de chaleur. Nous en verrons des exemples quand nous étudierons les variantes des cycles de turbine à gaz et de la machine de réfrigération. De la même manière, le travail de détente est d'autant plus important que la température du fluide est élevée. On a donc toujours intérêt à réchauffer un gaz ou une vapeur avant la détente. C'est pourquoi, si le rapport de détente est élevé et si c'est possible sur le plan technologique, on cherche à fractionner la détente et à réchauffer le gaz entre deux corps de détente. Nous en verrons des exemples quand nous étudierons les variantes des cycles des centrales à vapeur et de la turbine à gaz. Nous présenterons dans ce cours les principaux systèmes énergétiques qui permettent de transformer de la chaleur en énergie mécanique et montrerons comment ils peuvent être modélisés avec un outil comme Thermoptime. Nous avons jusqu'ici étudié deux cycles moteurs, celui de la centrale à vapeur et celui de la turbine à gaz. Nous allons maintenant voir comment ils peuvent être améliorés, notre objectif étant de minimiser les irréversibilités. En pratique, nous verrons que les modifications des cycles portent essentiellement, d'une part, sur la réduction des écarts de température, tant avec l'extérieur du système qu'en interne, et d'autre part, sur le fractionnement des compressions et des détentes.